Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Méninges. Bonjour Paul, bonjour Pierre.
Bonjour.
Cette semaine, on va poursuivre la réflexion sur Nietzsche, la droite identitaire et la gauche. Donc, dans l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de la vision que la droite identitaire avait de Nietzsche. Et je vous propose cette semaine de voir en réponse et en miroir la vision que la gauche peut avoir du philosophe allemand. Les Nietzschéens de gauche répondent à l'accusation de duperie, voire de kidnapping de la pensée nietzschéenne, qu'être Nietzschéen, c'est pas penser comme Nietzsche, mais à partir de Nietzsche. Ainsi, Henri Lefebvre, à qui nous avons consacré plusieurs podcasts, nous dit qu'il n'y a pas de paradoxe à dire que le monde moderne est à la fois hegelien, marxiste et nietzschéen. À Hegel, le monde moderne validerait la centralité de l'État-nation comme réalisation adéquate, structurant les communautés humaines. À Marx, les rapports de production qui structurent la société en classes et constituent le moteur de l'histoire. Et à Nietzsche, il faudrait alors emprunter le potentiel révolutionnaire, la protestation poétique dans l'attente de l'extraordinaire, du surhumain, le souffle de la contestation qui, par-delà le déclin, veut défendre la civilisation contre les pressions étatiques, sociales et morales. Hegel, Marx et Nietzsche, chacun aurait ainsi saisi quelque chose du monde moderne. Je vous laisse réagir, monsieur.
Ouais. C'est intéressant ça, ce que tu dis sur Henri Lefebvre, donc la triade Hegel, Marx et Nietzsche. Ça rappelle un peu la gauche 68arde, notamment la gauche deleuzienne, les spontanéistes finalement qui rêvent de faire sortir un peu de vie, un peu de vivant, un peu de vitalité d'institutions qui sont vieillissantes, qui sont pesantes. Et donc il y aura un potentiel subversif de Nietzsche, notamment dans sa dénonciation des valeurs chrétiennes, dans sa critique plutôt des valeurs chrétiennes, dans sa critique de l'institution étatique, et finalement dans tout son mépris de tout ce qu'il y a de petits bourgeois. J'aurais un auteur à citer en particulier qui serait Gilles Deleuze. Alors, Gilles Deleuze a écrit deux ouvrages sur Nietzsche, un ouvrage assez scolaire qu'il a écrit dans les années 50, et ensuite un ouvrage plus universitaire qui s'appelle Nietzsche, et il voit Nietzsche comme le principal opposant à Hegel, mais en tout cas le Hegel tel qu'il est lu par les conservateurs. Hegel, ce serait l'auteur finalement de la sagesse bourgeoise, l'auteur de l'État, du cadre confortable de l'État-nation, du commerce, de la société civile pacifiée par l'État. Et donc ce serait quelqu'un qui serait une sorte de défenseur de l'ordre établi. Et Gilles Deleuze montre que Nietzsche, justement, c'est celui qui déconstruit l'hegelianisme, la philosophie de Hegel, qui essaie de la renverser pour créer une philosophie qui serait plus axée sur le devenir, sur la vitalité des individus, des groupes humains, des institutions, etc. Donc oui, on pourrait comprendre en fait cet attrait de la gauche pour Nietzsche. Mais une certaine gauche, pas ouvriériste, pas une gauche pas très stalinienne, pas très PCF, une gauche un peu plus anarchisante, on pourrait dire, ou plus spontanéiste, quoi.
Oui, moi, je suis assez d'accord. Je pense que la gauche, on va dire traditionnelle, ouvrière, socialiste, en fait, n'arrive pas à s'accaparer Nietzsche, ne peut pas s'accaparer Nietzsche. Nietzsche était contre ce principe d'égalité potentielle. Mais je suis d'accord aussi à dire que je pense que l'appropriation de Nietzsche par notamment certains mouvements anarchistes ou libertaires ou voilà ce que tu disais spontanéistes, ça c'est un peu plus cohérent. Après, ça reste ce qu'on disait dans l'épisode précédent. En fait, ça reste très compliqué de justifier ça aussi parce que je pense que Nietzsche il a pas eu vocation particulièrement à être de gauche, mais je pense qu'il y a un potentiel utopique chez Nietzsche, qu'il y a un potentiel de... moi j'ai l'impression quand même dans le parcours de vie et intellectuel de Nietzsche, que Nietzsche essaye de sauver la vie contre Schopenhauer. Je pense que Nietzsche il a tenté tant bien que mal de vouloir faire revivre face à la volonté de mort de Schopenhauer une pensée un peu plus positive. Et je pense que là-dessus, du coup, il s'est aussi orienté vers une certaine... Enfin, que il peut être utilisé par une certaine gauche qui a envie de vitalité, qui a envie d'utopie, qui se projette vers une réinvention du monde et une réinvention de l'individu à travers une réinvention du monde, qui sont, à mon avis, compatibles avec une pensée nietzschienne. Après, je pense que dans le fond de la pensée nietzschienne, c'est quand même un peu déformé quand même d'aller jusque-là.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis sur Schopenhauer. Donc Arthur Schopenhauer, je vous invite à lire comment ça s'écrit pour pas faire de faute, parce qu'on le trouve souvent dans les copies. Arthur Schopenhauer, c'est un auteur allemand qui a écrit Le Monde comme volonté et représentation. Il a écrit d'autres ouvrages. Nietzsche l'a lu quand il était très jeune.
Et ça l'a traumatisé. Ouais.
Traumatisé, beaucoup marqué. Et une idée fondamentale de Schopenhauer, que je connais dans les grandes lignes, ça consiste à dire qu'en fait, le principe ontologique, le principe qui serait à la base du réel, ce serait la volonté. Donc en allemand, der Wille, vraiment la volonté. Et chacun de nos actes, finalement, serait l'expression d'une sorte de volonté fondamentale. Pourquoi, par exemple, deux personnes tombent amoureuses, se marient et font des enfants? C'est pas parce qu'il y aurait une sorte de liberté à écouter ses sentiments et à faire des choix de vie et des projets de vie. Ce serait simplement une expression de la volonté qui chercherait à se perpétuer à travers les êtres. Donc l'amour serait une illusion et on serait guidé par des pensées inconscientes. Et pour Schopenhauer, cette volonté fondamentale, qui s'exprime notamment dans le désir, c'est la source principale de la souffrance chez les humains. Pourquoi on souffre? Parce qu'on est toujours en train de manquer de quelque chose. On est toujours aspiré par le non-être, le manque, et on essaie d'aspirer à une plénitude qui est impossible, parce qu'on est justement déterminé par cette volonté qui nous fait toujours vivre selon le manque. Et l'idée de Schopenhauer, c'est d'arriver enfin à cette extinction de la volonté et du désir, il se réfère notamment au nirvana chez les bouddhistes, qui est le moment de l'extinction finalement du désir et de la volonté. On atteindra le bonheur lorsqu'on aura éteint finalement le principe du réel en nous. Et pour Nietzsche, il y a quelque chose de fou et de délirant. Et on pourrait dire que Nietzsche, c'est quelqu'un qui part des mêmes bases que Schopenhauer et qui arrive à une conclusion différente. Schopenhauer peut mener finalement au nihilisme européen, qui consiste à dire, éteignons tout ce qu'il y a en nous de vitalité, de puissance et de force. Et Nietzsche dirait à Schopenhauer, ce principe de volonté, c'est pas très grave. D'ailleurs, tu as mal compris cette volonté. En fait, on devrait l'appeler la volonté de puissance. C'est une puissance conquérante. Et on devrait au contraire l'assumer, la faire vivre, la faire prospérer. Et ça expliquerait l'utilisation de Nietzsche comme élément de rébellion contre les institutions bourgeoises, quoi. L'expression d'une volonté de puissance créatrice face à la pesanteur d'institutions traditionnelles.
Et justement, la question suivante, c'est... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers la structuration du mouvement ouvrier, le prolétariat exprimerait sa volonté de puissance au sens nietzschéen? Et pour en revenir à ce que tu disais, Pierre, dans ce cas, Nietzsche pourrait s'avérer utile de par la subversion de la morale qu'il produit, du renversement des valeurs qu'il rend possible, justement ce potentiel, comme disait Henri Lefebvre, de protestation politique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Paul, de cette expression de la volonté de puissance?
Moi, je pense que justement, il y a ce potentiel, ce que tu disais, c'est qu'on pourrait appeler utopique. Par exemple, un héritage non soupçonné de Nietzsche, pour moi, mais c'est probablement, c'est pas explicite non plus, je pense que c'est par exemple l'école de Francfort, où il y a quand même tout ce débat assez... fort autour de l'utopie, autour de l'idée que en fait on a besoin justement de vouloir un monde meilleur et que à travers ce monde meilleur on veut être des individus meilleurs. Dans l'utopie il n'y a pas que une solution. Enfin, je pense que l'utopie, c'est une certaine utopie à gauche notamment qui par exemple a été exprimée qui a été critiquée par Adorno mais aussi expliqué par Adorno dans l'école de Francfort, c'est cette idée que on est meilleur dans une société meilleure. Et ça, Nietzsche le dit clairement, qu'en fait, c'est l'utopie égalitaire du socialisme que à la gauche, il y a aussi une autre utopie, c'est une utopie de développement de soi à travers une société plus juste, plus libre. Nietzsche, c'est un penseur de la liberté absolue. Moi, je pense que il y a toute cette idée d'une liberté totale de la liberté même, du refus du don, où on ne donne plus rien, où on est juste libre de faire ce qu'on veut. Enfin, il y a cette espèce de potentialité assez folle qui, à mon avis, rejoint très fortement un courant de la gauche qui n'a pas forcément une filiation évidente à Nietzsche, mais qui, pour moi, peut être compris aussi dans cette continuité de cette volonté de puissance qui veut créer une société meilleure, qui crée des individus plus rationnels, qui sont aussi qui crée des poètes et des artistes, des penseurs, une société qui va être une société de pédagogie absolue, que, à mon avis, Nietzsche n'aurait pas été complètement contre. Après, on ne peut pas parler à sa place, mais je pense que ça c'est assez cohérent dans ma lecture de Nietzsche. Mais je pense que historiquement, l'appropriation de Nietzsche par la gauche, elle a toujours été un peu bancale quand même. Et c'est ça qui a un peu cette tension, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Ouais.
Il y a un excellent livre que j'ai lu il y a très longtemps, donc j'espère ne pas dire de bêtises sur son contenu. Ça s'appelait « Misère du nietzschéisme de gauche », écrit par Aymeric Monville, qui est un penseur du Parti communiste français. Je pense qu'il y est toujours, hein, j'espère en tout cas. Et c'est une référence à « Misère de la philosophie », un pamphlet de Marx contre Proudhon. Et dans Misère du nietzschéisme de gauche, donc Aymeric Monville, donc, qui est dans le PCF, Parti communiste français, vieille école, il dit que finalement il y a une sorte d'antinomie fondamentale pour lui entre la gauche, la vraie gauche, donc la sienne, et le nietzschéisme. Et il s'attaque principalement à Deleuze et à Foucault, donc à Michel Foucault, Gilles Deleuze, Michel Foucault, qui était proche, hein, philosophiquement et intellectuellement. Alors j'ai déjà parlé de Deleuze. On peut parler de Foucault aussi, finalement, qui était un penseur de la généalogie, de la déconstruction, finalement, de certaines idées, de certaines représentations, en montrant leurs origines dans l'histoire des idées. Et chez Nietzsche et chez Deleuze, en fait, on trouve quelque chose de très curieux pour une pensée de gauche, qui est une sorte d'aristocratisme. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la posture. On pourrait dire, en termes un peu familiers, ces philosophes sont globalement des poseurs. Et qui dit poseur dit culte de l'individualité, de l'originalité, de la distinction et du chic. Et il y a en fait quelque chose de très bourgeois au sens bourdieusien dans ce type de doctrine. Et donc, si je me souviens bien du propos d'Aymeric Monville, il y aurait quelque chose un peu de malhonnête dans cette démarche et qui ne correspondrait pas à ce que devrait être la gauche, c'est-à-dire un mouvement collectif, un mouvement organisé. Un mouvement aussi fondé sur une certaine discipline, hein, concrètement. Et on ne pourrait pas finalement se mettre du côté du Nietzsche, de Foucault et Deleuze, qui rêvent de la création de nouvelles formes de vie, d'expérimentation, etc. Ça ne pourrait pas aller ensemble. Et par ailleurs, Aymeric Monville, et là, ça me reviendrait à revenir sur le premier podcast sur Nietzsche, il montre que concrètement, c'est aussi un contresens et une erreur de lecture fondamentale. Et lui voit en Nietzsche, sûrement à tort, un penseur nationaliste et un penseur, pour le dire, d'extrême droite. Et c'est intéressant, ça dit quelque chose d'ailleurs sur l'histoire des idées intellectuelles. Finalement, une explication possible du nietzschéisme qui a fini par virer à gauche, ce serait une explication très sociologique. On a des intellectuels très classiques, donc des normaliens, des agrégés de philosophie qui ont eu une thèse à l'université à la Sorbonne, qui font des thèses très classiques et très petites bourgeoises sur les auteurs qui leur plaisent. Hegel pour certains, Nietzsche pour d'autres. Nietzsche pour les plus originaux et les plus subversifs, les gens qui jouent un peu à se faire peur. Vous avez mai 68 ensuite qui arrive, qui marque le retour d'une certaine gauche. Et finalement, ils sont obligés de prendre position. Et la position qui leur semble la plus utile et la plus porteuse d'un point de vue professionnel, du point de vue des postes, c'est de reprendre l'existant, donc ce qu'ils avaient déjà fait, la lecture de Nietzsche, et l'adapter finalement à l'ère du temps. Et Deleuze lui-même dit, hein, que finalement il s'est toujours adapté à l'ère du temps et qu'il a toujours essayé de le capter. Donc il y avait un ère du temps nietzschéen, avec Foucault, avec Pierre Klossowski, avec Georges Bataille, un ère du temps nietzschéen qui n'était pas spécialement de gauche. Il se trouve ensuite que la gauche est revenue au pouvoir, en tout cas d'un point de vue culturel, et donc il y a eu une sorte d'acclimatation de leur ancien nietzschéisme au gauchisme ambiant. Et il y aurait quelque chose vraiment de presque opportuniste et de l'ordre de la posture dans ce type de démarche.
En tout cas, mais je pense que celle de Julien Rochdy aujourd'hui, qui voilà, où l'hégémonie culturelle, pour reprendre la pensée de Gramsci se tourne malheureusement vers l'extrême droite aujourd'hui, et du coup Nietzsche avec. Et Nietzsche, c'est un peu c'est le flotteur hein, qui suit le courant à travers l'histoire de la pensée, qui se fait entraîner un coup à gauche, un coup à droite. Après, moi j'ai un problème essentiel avec cette idée qu'il y a qu'on critiquerait Deleuze, Foucault, Bataille, parce qu'il ne serait pas la vraie gauche, qui serait une gauche plus de poseur, justement ce que tu disais. Je pense aussi que une lecture de Nietzsche a amené à des expérimentations de gauche, d'extrême gauche même, qui sont particulièrement positives, et qui sont dans cette perspective, je pense, de volonté de nouveau, de renouvellement, de cette flèche vers l'avant de l'humanité. Enfin, par exemple, je pense dans les expérimentations qu'on a vécues en France de zones à défendre, de choses comme ça, il y a ce potentiel nietzschéen, quand même, de réinvention de soi à travers une réinvention du collectif. De dépassement de soi, enfin, parce que en l'occurrence, je pense que c'était le cas dans certaines parties de ces zones, de dépassement, de confrontation totale contre l'État, de voilà, où c'est une gauche, une certaine gauche qui est pas la gauche traditionnelle ouvrière, syndicaliste, mais qui est quand même une gauche. Moi, je pense que la critique qui est faite contre Deleuze et Foucault, c'est aussi, je pense, une partie d'une vieille gauche qui a constamment tenté de garder le monopole de la gauche, en fait, qui a voulu garder le monopole et qui a d'ailleurs échoué aujourd'hui. On voit par exemple que la majorité de leur base électorale a complètement viré de bord pour différentes explications sociologiques, et que aujourd'hui cette gauche traditionnelle ouvrière syndicaliste elle est mourante. Et qu'aujourd'hui, une des gauches qui a le plus de vitalité, avec toutes les critiques qu'on peut lui faire, c'est une gauche qui est plus dans cette perspective foucalienne aussi de déconstruction des oppressions, de déconstruction de la norme, qui voilà. Et alors c'est une expression différente de la gauche, mais pour moi, cette expression reste de gauche, et elle est peut-être un peu plus proche de Nietzsche que ce qu'on pense. Même si ça reste, encore une fois, une lecture de Nietzsche qui est particulière et qui n'est pas particulièrement proche du texte. Mais après, encore une fois, je pense que c'est ce qu'on disait dans le premier épisode, je pense que c'est compliqué de positionner Nietzsche par rapport au texte de Nietzsche, parce que Nietzsche, c'est un penseur de la formule, c'est un penseur qui a un système de pensée qui est quand même assez obscur, en fait.
Alors justement, François Bébaudeau, quand il parle de Nietzsche, il nous dit que certains auteurs peuvent et doivent même être lus en dehors de toute forme de pensée politique. Indépendamment de sa personne et de sa biographie, Nietzsche serait, selon Bébaudeau, d'abord une proposition esthétique, dont il ne faudrait surtout pas attendre de captation du réel social. Est-ce que c'était ça que tu disais?
Bah, je pense que c'est pas faux, mais qu'en même temps, c'est pas... Je pense qu'interdire de penser Nietzsche en politique, c'est aussi... pas terrible, parce que je pense que Nietzsche, justement, à travers sa biographie, il avait un placement politique, que il a été constamment, enfin sa pensée posthume a été constamment reprise à droite, à gauche, et pour des raisons, c'est que je pense qu'il y a quand même un potentiel politique chez Nietzsche, que je pense qu'il s'était placé politiquement, mais après, moi je pense que l'écrit de Nietzsche est difficilement plaçable parce que Nietzsche n'est pas explicite. Et je pense que justement, les seules choses explicites et tangibles qu'on a sur le placement politique de Nietzsche, c'est sa biographie. Et du coup, qu'on peut se rattacher à cette biographie, et en l'occurrence, cette biographie, elle nous dit que Nietzsche, bah, il n'était pas à gauche du tout, qu'il était pas non plus, qu'il était vraiment contre l'extrême droite et la droite identitaire. Mais après, pour le placer exactement sur l'échiquier politique, surtout aujourd'hui, où l'échiquier politique a quand même pas mal bougé depuis la fin du 19e siècle, et ben c'est compliqué, et je pense que c'est un peu une tentative de funambule un peu délicate.
Pierre ?
Je reprendrai une formule d'un professeur génial que j'ai eu, qui s'appelait Bernard Michaud, paix à son âme, c'était mon professeur de Cagne, qui nous disait de lire Nietzsche comme un aiguillon. Voilà, un aiguillon, c'est-à-dire quelque chose qui nous maintient toujours alerte, qui nous réveille toujours, qui nous permet de questionner toutes nos certitudes, de déconstruire, comme on dit maintenant, certains de nos préjugés. Et oui, ça correspondrait un peu à la formule de Bégodeau, finalement. Ne pas chercher chez Nietzsche de contenu positif, de contenu constructif. C'est pas l'auteur qui construit une cathédrale conceptuelle ou un grand système philosophique.
Justement, c'était la question suivante.
Et c'est pas son ambition. Le but de Nietzsche, c'est, comme il le dit à un moment donné, de philosopher à coups de marteau. Et à coups de marteau, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire casser les vieilles idoles, pour éventuellement en reconstruire de nouvelles, détruire les tables de la loi et créer de nouvelles valeurs. Mais philosopher à coups de marteau, ça peut aussi être une pratique de médecin qui palpe, qui tâte, pour voir ce qu'il y a de sain, ce qu'il y a de malsain, pour voir de quoi... qu'est-ce qu'un symptôme cache comme mal plus profond, comme mal civilisationnel, etc. Donc forcément, il y a derrière la pensée de Nietzsche des thèses, des idées, puisqu'on ne peut pas déconstruire sans théorie derrière. On ne peut pas douter de quelque chose sans s'appuyer sur quelque chose dont on ne doute pas, de fait. Mais il n'y a pas de volonté de systématisme. Donc oui, ce serait intéressant ce que dirait François Bégodeau, ce qui lui arrive parfois de dire des choses intéressantes, il paraît. Ce que Bégodeau dirait d'intéressant, c'est ça, effectivement. C'est un questionneur. Voilà. Tout comme parfois, on a besoin d'amis qui sont là plus pour poser des questions que pour donner des conseils. Voilà, des gens qui, finalement, nous guident dans un certain cheminement intellectuel. Ce serait peut-être le rôle de Nietzsche. Et d'ailleurs, finalement, ça rejoindrait un peu notre interrogation. Est-ce que Nietzsche est de gauche et de droite? Et pourquoi la gauche et pourquoi la droite le récupère? Parce que Nietzsche, c'est quelqu'un qu'on a lu quand on était adolescent. C'était quelqu'un qui nous a fascinés et qui nous a ouvert la voie et qui nous a permis d'avoir un certain cheminement. Un cheminement qui peut être plutôt orienté à gauche ou plutôt orienté à droite.
Et par rapport à ce que tu viens de dire, l'une des critiques fondamentales que la gauche fait à la droite identitaire quand elle récupère Nietzsche, c'est justement le fait que la droite aurait reconstitué de manière très factice un système nietzschien. Et que justement, ce que tu disais, que Nietzsche n'est pas un penseur systématique, donc il ne peut pas être à la base d'un système de pensée de la droite identitaire, chose qu'il est en train de devenir.
En fait, moi, je pense que pour le transformer en système de la pensée identitaire, il faut le trahir. Encore une fois, il faut trahir l'homme qu'il était, plus que sa pensée. Après sa pensée, il y a probablement du système à trouver chez Nietzsche. Je pense qu'il y a une certaine cohérence à travers ses écrits, que c'est pas non plus incohérent complètement ce qu'il raconte Nietzsche. Il y a un système de pensée, il y a des concepts qui font sens, qui se retrouvent dans différents ouvrages, il y a une continuité. Mais je pense que trahir Nietzsche en le réinterprétant à l'extrême droite, c'est parce que, encore une fois, dans ses derniers écrits, notamment le cas Wagner, dans sa critique de la culture allemande, il y a une critique quand même qui est toujours actuelle de l'extrême droite et qui a aujourd'hui pris la forme de la droite identitaire. Et du coup, moi, je pense que on peut pas faire ce que... Enfin, on peut pas, en fait... Moi, je pense qu'on peut pas dire que Nietzsche était de gauche. En fait, je pense qu'on peut pas dire que Nietzsche était potentiellement... En fait, aujourd'hui, il est plus sur l'échiquier politique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les idées politiques de Nietzsche, elles existent plus trop sur l'échiquier politique. Comme les idées de Tocqueville. En fait, les idées de Tocqueville, aujourd'hui, elles sont compliquées à adapter à notre moment politique, même si c'est intéressant de les lire. C'est une droite... Je pense que Nietzsche faisait partie d'une droite qui est révolue, qui n'appartient plus à la droite actuelle, mais qui n'appartient certainement pas à la gauche non plus. Alors, je pense qu'il y a une partie de Nietzsche qui peut être utilisée par la gauche et qui peut être utile pour penser... l'utopie par exemple, mais je pense qu'il y a des penseurs, encore une fois, ça reste une pensée adolescente. Je pense que pour penser l'utopie, on peut se tourner vers des penseurs qui sont plus clairs, qui sont plus analytiques sur ces questions-là. Par exemple, on peut se pencher vers Adorno, Benjamin, l'école de Francfort, qui eux ont réfléchi sur ces questions de manière plus claire et précise, pour reprendre les termes de Bachelard, alors que Nietzsche, il n'a jamais exprimé ces choses-là. Et je pense que l'extrême droite ou la droite identitaire fait la même chose, essaye de trouver chez Nietzsche ces concepts qui sont transformables, mais qu'en fait, probablement, il y a des penseurs à l'extrême droite et à la droite qui seraient capables de produire des systèmes plus clairs et précis. Et en fait, moi, je pense que c'est ça le gros problème du placement politique chez Nietzsche, c'est qu'en fait, on le lit en tant qu'adolescent, il crée cette étincelle, mais qu'après... on tente tant bien que mal de l'introduire dans les systèmes de pensée qu'on se fait après sa lecture, alors que eh ben, peut-être que le rôle de Nietzsche en politique, c'est avant tout un rôle de création, d'indignation presque. En fait, et après, en fonction de notre système de valeurs, de notre culture, de notre point de vue spécifique dans la société contemporaine, eh ben, on va faire évoluer, on va chercher dans la critique nietzschéenne de la société ce qu'on veut. Et après, c'est tout le problème de l'interprétation de Nietzsche en politique, c'est qu'après on fait son marché aux citations, on va chercher la citation qui va bien, et on la trouve, parce que Nietzsche, il avait le sens de la formule, et c'était un écrivain fantastique, et du coup, on trouve la formule qu'on veut. Mais on est obligé, pour faire ça, de tronquer le reste. Et je pense qu'on ne peut pas assimiler le système de pensée de Nietzsche à un système politique contemporain aujourd'hui, sans complètement falsifier sa pensée.
Un exemple de contradiction dans l'œuvre de Nietzsche, il y a un moment dans la généalogie de la morale où il dit « je n'ai pas d'amis ». Et 20 lignes ou 20 pages plus tard, il dit « comme l'affirme mon ami machin truc ». Voilà, il n'était pas très soucieux d'éviter les contradictions et de faire une cathédrale logique ou un système parfait, un peu comme Spinoza dans l'éthique, mm-hmm. ou comme les critiques de Kant, c'était pas son objectif. Mais je pense quand même, comme tu dis, qu'il y a un aspect systématique. Il y a une sorte de système en pointillés qui se dessine,
oui.
avec la volonté de Nietzsche de ne pas compléter justement les pointillés et d'aller jusqu'au bout, et presque un refus parfois de la cohérence, avec cette idée que ce souci de la cohérence, ce souci de l'objectivité et d'une froide rationalité, bah, ce serait encore une fois le symptôme d'une volonté de puissance un peu défaillante qui chercherait à tout figer, à tout arrêter. Au fond, c'est ça, hein, le système, c'est une tentative de plier le jeu philosophique. Tout s'arrête, c'est bon, c'est fini, on a le dernier mot. Et c'est un peu ce qu'il dit, il dit qu'il n'y a jamais de dernier mot. Il assume l'idée que le monde est dans un devenir permanent. Donc c'est pour ça qu'il y aurait cette tentative d'éviter le système. Mais à partir du moment où on commence à proposer des thèses philosophiques, bah comme tu dis, c'est vrai que c'est assez inévitable qu'on cherche une certaine cohérence, que les thèses finissent par s'avancer. Mmh. Et de fait, si Nietzsche avait été un auteur parfaitement contradictoire, bah il n'aurait pas eu de valeur et personne ne l'aurait lu. On peut dire que c'est pas de la contradiction, on pourrait dire que c'est du paradoxe.
Ouais.
Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une part, encore une fois, de pause chez certains intellectuels lorsqu'ils disent « il n'y a pas de système nietzschéen, il n'y a rien, c'est uniquement voilà, des petites rampes de lancement pour certaines critiques sociales. » Il y a forcément un noyau quand même philosophique qui est assez cohérent, qui est assez fixe, sans quoi il ne serait pas compréhensible et sans quoi il n'aurait pas de valeur. Si on en parle autant, c'est peut-être justement parce qu'il est capable de jouer sur ces deux plans, quoi. À la fois le système, et en même temps contre le système. Un peu comme Emmanuel Macron.
Ouais, après je pense aussi que
ça
que
fait
Nietzsche...
deux fois.
Ah, un par épisode. Moi, j'ai envie de dire aussi que Nietzsche, il avait... Sa pensée philosophique, elle est quand même... Enfin, au début du Gai Savoir, c'est intéressant, il établit un peu son programme philosophique, qui n'est pas du tout un programme de création de système. Il ne veut pas résoudre tous les problèmes du monde, il ne veut pas du tout comprendre le monde et dire « Ah voilà, le monde, il est comme ça et c'est tout », comme d'autres ont voulu le faire. Pour lui, la philosophie, c'est une nécessité de soin. Pour lui, il prend la philosophie de son point de vue de malade. Et pour lui, la philosophie, ça lui permet de sortir de l'hiver de la maladie. C'est une nécessité organique, quasiment, philosophée. Et du coup, je pense que de cette nécessité, de cette pulsion philosophique, de cette, enfin, je sais pas comment le dire, voilà, de volonté de penser le monde par rapport à sa souffrance aussi. Enfin, il était quand même souffrant toute sa vie, Nietzsche. Et bah, du coup. Il y a cette philosophie en pointillé, justement, parce qu'il n'est pas dans la recherche de la posture académique. Il a abandonné ce passé derrière lui. Il n'est pas dans la recherche de l'approbation des pairs. Il est voilà, dans cette automédication, presque, à travers la pensée philosophique. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué à assimiler à un programme politique, parce que c'est... pas un programme politique, et que c'est aussi voilà, ce qu'on peut dire par rapport à toute la nécessité d'interprétation chez Nietzsche et de Nietzsche, c'est que en fait c'est une philosophie du soin, presque, Nietzsche, c'est une philosophie de en tout cas pour lui, je pense qu'il philosophait pour lui, pour se soigner de ses maux, que c'était une diététique de son esprit, en fait, et que du coup aujourd'hui, à contre-coup, au XXIe siècle, c'est compliqué de dire que quand Nietzsche disait ceci ou cela, il anticipait tel potentiel politique de notre monde européen. Alors qu'en fait, je pense qu'il n'avait pas cette ambition. Et il n'avait pas envie qu'on fasse ça de son héritage non plus. Je pense que c'était une invitation à la pensée spontanée.
Oui, voilà. Il appartiendrait à un groupe de penseurs qu'on pourrait appeler presque thérapeutiques. Ouais. C'est intéressant. Ça partirait avec Blaise Pascal.
Oui, voilà,
exactement. Premier penseur. Il y aurait Nietzsche, il y aurait ensuite Wittgenstein au XXe siècle. Mm-hmm. Wittgenstein qui est aussi un penseur inclassable, difficile à lire, parfois hermétique. Et qui a cette idée aussi, à travers l'exercice philosophique, de dénouer un certain nombre de problèmes philosophiques et de problèmes vitaux. Et cette volonté de montrer que finalement la pratique philosophique ne s'arrête jamais, en fait. Qu'il n'y a pas de dernier mot à la philosophie, il n'y a pas de grand système. C'est notamment ce qu'il dit dans les recherches philosophiques, à travers sa notion de jeu de langage. Le travail philosophique, il faut toujours le remettre sur le métier, pour essayer de démêler des nœuds que par la vie ou par la réflexion, on a fini par faire par nous-mêmes. Donc Nietzsche, c'est le médecin qui vient à coup de marteau, et finalement on pourrait dire que Wittgenstein, ce serait le clarificateur, ou l'éclaircisseur, ou le démêleur de problèmes qui sont finalement infinis. Donc voilà, un Nietzsche thérapeutique serait intéressant comme idée.
Voilà. Messieurs, merci beaucoup.
Merci à toi.
Pour cet échange très intéressant. Alors pour conclure ces deux épisodes, comme Pierre, tu m'as dit qu'il arrivait à Bégodeau de dire des choses qui était censé. Je vous lire une phrase. Alors il dit « Se demander si Nietzsche est de gauche ou de droite, c'est pas une question intéressante. Ce qu'il faut faire, c'est le lire, essayer de penser avec lui. » Est-ce que ça vous va comme conclusion de ces deux épisodes?
Tout à fait.
Ouais, je pense que c'est assez correct.
Okay. On remerciera François Bégodeau pour cette phrase fort intéressante.
Merci à lui, merci à vous.
Merci.
Et à la semaine prochaine.